Chapitre 2. Cette promesse équivoque devait rester sans résultat et les mois passèrent dans une uniformité absolue. Brigitte avait organisé sa vie en mettant dans ses occupations la variété que lui permettaient ses différents talents. Mais un observateur, même médiocre, en voyant ses yeux attristés ou trop pensifs, eût compris que l'imagination, ne perdant aucun de ses droits, prenait chaque jour plus d'empire sur une âme solitaire et déçue. Si la solitude est la patrie des forts, ou si un esprit poétique s'y nourrit d'un suc inconnu au vulgaire, il est rare, quand elle se prolonge, qu'elle n'ait pas une influence funeste. Mais transformée en isolement, elle est un dissolvant qui corrompt, détruit ou fait dévier les meilleures qualités. La nature de Brigitte, douce mais passionnée, droite mais romanesque, avide de tendresse et sans guide, pour lui indiquer le danger d'une sensibilité exaltée par la pensée, devait promptement se replier dans le rêve et vivre en un sens aussi profondément dans l'irréel que M. Desponnets y vivait lui-même. À ce vieil enfant égoïste, d'ailleurs très inconscient dans son égoïsme, il était bien impossible de juger la situation autrement que par la surface. La psychologie d'une jeune fille lui échappait aussi complètement que celle d'un hindou, et quand il voyait Brigitte dessiner ou combiner des travaux féminins, il se disait avec satisfaction « Elle n'est pas gênante, c'est sa mère exactement ». Quelquefois, il s'approchait pour lui dire « Tu t'amuses, tant mieux, continue ». Il s'en allait, sans se douter qu'après son clairvoyant encouragement, sa fille pleurait souvent amèrement. Si, penché sur elle, il avait pu lire le soir les lignes qu'elle écrivait pour alléger son cœur ou ses pensées, il eût été dans un étonnement extrême. Peut-être eût-il souffert, mais sans songer à modifier les circonstances. Une des premières choses observées dans la vie, c'est que rien ne marche au gré de son désir. La réflexion est sans doute trop morose pour une fille de mon âge, surtout quand, depuis 5 mois à peine, elle est rentrée, après tant d'années de pension, sous le toit paternel. L'été a passé vite et cette saison d'automne, tant aimée des poètes, me paraît moins douce que la saison précédente. Est-ce parce que certaines espérances se sont enfuies avec les jours d'été ? J'en aime les fleurs pâlies qui semblent reprocher au soleil de ne les avoir pas assez caressées. Leurs plaintes trouvent un écho dans mon cœur, leur mélancolie sourit à la mienne. Qui songe à respirer leur parfum discret ? Le travailleur ne s'en soucie, les insectes meurent et les oiseaux émigrent. Elles s'effeuilleront seules, sans un regard d'amour pour les regretter. Quelle que soit la mélancolie qui m'environne, ma maison répond à tous mes goûts. Elle est charmante, avec ses tours à tourelles, et nous voudrions conspirer que nous aurions les cachettes nécessaires à la réalisation de nos projets. Ces cachettes ont servi aux chouans, et si j'en crois le père Nancy, ont vu des complots et quelques horreurs. On m'a montré des taches brunes qui ressemblent à du sang, mais nous n'avons aucun revenant comme dans les manoirs anglais. Je le regrette. Depuis mon arrivée, j'ai souvent fait glisser la cloison mobile du grenier afin d'entrer dans la chambre qui a conservé les traditions lugubres et de rêver au passé tumultueux. J'aurais aimé alors les aventures et les coups de feu. Au milieu d'événements imprévus, j'aurais défendu les tendresses qui font la vie. À quelques pas, dans le grenier, on pèse sur un clou et une trappe s'abaisse, découvrant ainsi une cavité où 2 hommes peuvent se terrer. Ma maison me plaît et sans l'ombre que j'y vois grandir, je serai heureuse jusqu'à l'arrivée de celui que toute femme attend. 25 octobre. Quelle ombre ! Vient-elle des bois dont j'aperçois l'orée ? Vient-elle de moi ? Vient-elle du rêve qui approche avec ses ailes et me fait signe de m'envoler avec lui ? Le doux voyage que celui auquel il me convie ! Et comment l'ombre émanerait-elle de cet ami, le seul qui me parle un langage aimé, le seul qui m'apprenne la vie ? Ombre triste qui assombrissait le charme de cette maison, d'où venez-vous ? Hélas, Comment une fille unique est-elle si peu aimée? Lorsque, me plaignant d'être si longtemps délaissée à la pension, je confiais mes doutes à Madame Louvel, elle me disait « Détrompez-vous et comprenez-le, il vous aime, mais c'est un distrait et un savant. De plus, il a aujourd'hui 65 ans, c'est presque un vieillard enfoui dans ses habitudes. Mais il est homme de cœur, ainsi jugez votre mère, faites comme elle. » Me tiendrait-elle le même langage si elle voyait à quoi se réduisent nos rapports affectueux? Faut-il la croire? Faut-il croire les faits? Tout est trompeur dans cette maison, même la liberté. La liberté d'accomplir quoi? Je sors à ma guise, et maintenant que je suis connue dans le pays, je sors seule, et cette latitude me plaît. Je rentre à l'heure choisie par moi, personne ne s'en préoccupe, oh non! Mais après... Nos domestiques sont vieux et conduisent depuis tant d'années la maison que mon autorité est un simulacre. Par amour de la paix, je dois fermer les yeux sur les abus et surtout ne pas toucher à leurs privilèges. Pour eux, je suis une enfant et mon père partage cet avis au point de me blâmer si je pars en guerre. Sur un mot, hasardé la semaine dernière, il a répondu « Ils sont sages et s'entendent à tout. » Laisse-les faire, tu peux te fier à leur expérience. Alors, que me reste-t-il? Moi-même, c'est bien peu. Oui, j'aurai 10 ans que mon pauvre père ne me traiterait pas autrement, et je serai majeure dans quelques semaines, et je me sens tellement femme par l'esprit et le cœur, un esprit qui a beaucoup pensé loin des plaisirs de mon âge, un cœur qui a tant besoin de vivre. 25 novembre. Ce mois de novembre a été bien pluvieux. Comme je me suis ennuyée! Et chaque jour, mon père m'a répété les mêmes mots. « Tu t'amuses, continue !» Cette phrase est celle du matin. « As-tu bien dormi? Amuse-toi, mon enfant !» me donne une envie folle de pleurer. En vérité, les pressentir puis les entendre me causent une impression semblable à l'appréhension d'un coup vif qui fera souffrir. Aujourd'hui, j'ai appris le mariage d'une de mes compagnes. La plupart sont ou mariées ou contentes dans une vie joyeuse. Aussi m'oublie-t-elle et bientôt je n'aurai même pas une lettre comme souvenir. « Vous habiterez la campagne ?» m'avait-elle dit. « Que ferez-vous pour vous distraire ?» Je répondis que nous aurions des voisins aimables, des réceptions, des chasses, et que mon mariage couronnerait ce temps heureux. « Qu'en savez-vous ? » me dit l'une d'elles. « Il y a des campagnes très solitaires. Presque toujours, je crois, on ignore les plaisirs dont vous parlez. Bah, vous aurez la ressource d'élever des pigeons ou d'écrire votre journal. » « Oh, jamais, c'est trop bête » m'écriai-je. Je regrettai mon exclamation qui l'avait froissée, car elle notait soigneusement chaque jour ses pensées et ses impressions. « Eh bien, je m'intéresse aux pigeons, et je suis bête au point d'écrire mon journal. Et pourtant, j'étais si joyeuse en arrivant ici, décidée à être si facilement heureuse. Mais cette absence d'affection est trop pénible. » Suis-je aimée d'un père qui ne s'intéresse ni à mes idées, ni à mes actions? À quoi me sert la tendresse dont j'aurais voulu l'entourer, si ce n'est à me faire souffrir? 27 novembre. Je commence à comprendre le conseil donné à mon père par Madame Louvel. Elle préférait la pension et ses ressources ennuyeuses à l'isolement profond qui m'attendait ici. En défiance devant mes tendances rêveuses, elle m'a souvent mise en garde contre moi-même. Et quoi, ces vieilles gens n'ont-ils pas rêvé eux-mêmes autrefois? J'ai assez réfléchi pour savoir que la vie présente toujours quelques circonstances qui nous jettent en dehors du monotone et terre-à-terre sentier battu. La vie n'est pas de traîner seule les heures d'une longue journée. Elle est le mouvement, les surprises heureuses, les joies ardentes, le bonheur, l'amour. Elle est le rêve ailé réalisé, et ce rêve est partout, sous les feuilles qui s'agitent, dans la brise qui souffle, dans le cœur qui souffre seul. Hier, j'ai amusé mon père en lui mimant une chansonnette. Il trouve que j'ai du talent et que le contraste entre ma physionomie sérieuse et ma science pour rendre des nuances comiques est particulièrement amusant. Je l'avais saisi un instant, puis il est retourné à ses pensées habituelles. J'ai voulu m'intéresser à ses travaux. Malheureusement, je ne les comprends pas. Que m'importent les habitudes d'un homme qui vivait il y a 500 ans? Et comment son âme est-elle plus intéressante que la mienne? Quand j'ai essayé de l'attirer sur mon terrain, pauvre père, il a été beaucoup plus dépaysé que moi-même en m'aventurant dans son érudition. 15 décembre. Aujourd'hui, 7 mois que je suis arrivée. La campagne est devenue triste extérieurement, cependant cet aspect gris, quand il ne pleut pas, m'est agréable. Mais il pleut souvent. Donc plus de sorties, pendant lesquelles mon rêve marche avec moi et me fait entrevoir l'événement attendu. Plus de courses dans ces bois, dont je connais 20 endroits poétiques, les uns frais au bord de l'eau, les autres dénudés, couverts de bruyère, et si sauvages qu'on se croit transporté à 20 lieues de toute civilisation. Depuis 7 mois, je suis assise souvent sur une pierre moussue ou près de la source claire pour converser au milieu d'un cadre romantique avec ceux qui m'apporteront un jour la lumière et le mouvement. Sous quelle forme? Il n'y en a qu'une et les tendresses de mon cœur me la montrent distinctement. Enfant de mon rêve, venez avant que les années et surtout la tristesse n'étiolent la vie qui bat dans mon cœur. 4 janvier. Un événement. Nous avons reçu une visite. Notre cousine, Madame Taillanderie, qui habite à 4 lieues de Noirpin, nous a écrit pour nous demander un lit, son intention étant de passer 3 jours avec nous, y compris le 1er janvier. En temps ordinaire, elle vit pauvrement dans une métairie qui marche sous sa direction. Veuve d'un propriétaire ruiné, elle fait ses visites dans une calèche dont la peinture est enlevée et les coussins mangés par les mites. En revanche, ses chevaux, qui passent du labour à la calèche, sont des bêtes magnifiques et, bien qu'alourdies par les durs travaux, font encore bonne figure attelée. Ravie de voir un visage nouveau, je suis accourue pour la recevoir, mais son aspect m'a étonnée et un peu rebutée. Elle est d'une laideur extraordinaire, avec des mouvements brusques, une voix d'homme qui contraste avec sa petite taille et des allures si décidées que mon père tremblait de l'avoir séjournée à Noirpin. Mais quand, par politesse, nous lui avons demandé de prolonger sa visite, elle a répondu d'un ton furieux « Ai-je le temps? Rien ne marche chez moi quand je n'y suis pas. C'est une grande faveur que je vous ai faite en venant ici. » Faveur dont nous nous serions bien passés, car elle n'a cessé de nous critiquer. En descendant de voiture, elle a commencé par dire à mon père « Eh bien, cousin, votre fille est depuis 6 mois dans le pays et vous ne me l'avez pas encore présentée ?»« La mauvaise saison est arrivée au moment où nous comptions partir, » répondit mon père. « Partir, vous parlez comme si 4 lieues étaient la Chine. Je viens bien vous voir en mauvaise saison, moi. » Vous n'avez même pas répondu à ma dernière lettre. J'ai eu tort sur toute la ligne, répliqua mon père, dont l'attitude effarée me faisait sourire. Adoucie par cet aveu, elle m'a regardé en disant « Trop fluette et des yeux trop grands, c'est bien ce que je croyais. » La fin de la journée s'est bien passée. Sans le ton trop brusque, qui donne à toutes ses réponses un air de coup de boutoir, elle est intéressante avec son esprit nourri de choses pratiques qu'elle vous administre comme des potions salutaires. Le jour suivant a été hérissé. Elle a critiqué notre jardin en désordre, notre métairie à peu près abandonnée au métayer, haussant les épaules sur les réponses de mon pauvre père qui mettait en avant ses occupations érudites. « Laissez-moi donc tranquille. Vivez-vous aujourd'hui ou au XIIIe siècle ? Pourquoi ne tirez-vous pas meilleure partie de votre propriété ? Que vous rapporte votre métairie ? Mets des œufs, du beurre et des volailles. » Alors elle s'est tournée vers moi. Au lieu de rêver, petite, car votre mine indique que vous n'êtes pas assez sur la terre, vous devriez mettre ordre à tout cela. » Enfin, malgré moi, grâce à une porte ouverte, j'ai entendu une conversation à mon sujet. « Eh bien, mon cousin, que faites-vous pour marier votre fille ?»« Pour la marier, s'est écrié mon père, qui n'avait jamais songé à cet événement possible. « Mais c'est une enfant !»« Ah ah » a-t-elle répondu d'un air narquois. « Je vois à quelle catégorie de parents vous appartenez. Vous croyez encore que votre fille a 10 ans ?»« Du tout, mais... »« Mais vous le croyez. Eh bien, mon cher, une fille qui sera majeure dans quelques semaines a autre chose en tête que le dessin et les chansonnettes. Vous n'avez qu'à regarder ses grands yeux tristes. » Je vous assure que Brigitte est heureuse ici. Demandez-le-lui. Elle ne se plaint de rien. Belle raison. Moi, je vous assure qu'il n'est bruit dans le pays de la vie solitaire de votre fille et, à vrai dire, je suis venu ici pour vous l'apprendre. Mariez-la ou, par Dieu, donnez-lui une autre existence. Cette attaque avait lieu quelques heures avant son départ que nous vîmes arriver avec le plus vif soulagement. J'aime mieux mon désert que semblable visite. Au moment de monter en voiture, elle m'a dit brusquement « Ma petite, vous me plaisez assez, malgré votre air rêveur qui ne me va pas. Si vous êtes un jour dans l'embarras, venez me trouver, car sans raison personnelle qui vous attire chez moi, je crois que je ne vous verrai jamais. Avec le mauvais cheval de votre métayer, en 2 heures de voiture, vous serez à ma métairie. » Nous avons été troublés par cette visite fulgurante et mon père, durant plusieurs jours, a paru inquiet. « Est-il vrai, m'a-t-il dit un soir, que tu penses à te marier ?»« Attendons, répondis-je en souriant, nous ne pouvons pas créer un mari. » »« Oui, oui, il faut attendre évidemment. Cette femme est absurde, dit-il entre ses dents. Mais je désire te distraire et nous ferons ensemble un voyage l'été prochain. » Et votre travail? J'ai écrit à Paris afin qu'on me découvre un homme instruit qui me servira de secrétaire pendant quelques mois. Je pourrai ainsi être en mesure de partir avec toi en juillet. La pensée de voir un second savant dans la maison est loin de me sourire. Que de conversations ennuyeuses à écouter! Mais je gardais pour moi mes réflexions et demandais à mon père pourquoi il ne m'avait pas conduite chez Madame Taillanderie. « Tu l'as vu ? » m'a-t-il répondu, avec une nuance de l'air effrayé qui m'avait amusé. « Et tu me demandes pourquoi ? En arrivant ici, j'ai entretenu avec elle quelques relations. Mais, grand Dieu, j'y ai vite renoncé. » Le résultat de cette visite a été que j'ai regardé plus attentivement autour de moi et pensé que je devais remplir les heures si longues en dirigeant les affaires de la propriété dans une autre voie. Mais quand j'en ai parlé à mon père, il a répondu, un peu agacé, « Ne te laisse pas influencer par les propos de cette indiscrète. Nous sommes tranquilles, restons ainsi. » Encore un espoir perdu. « Oh oui, nous sommes tranquilles. » 5 janvier. Du moins, pendant ces heures tranquilles, je puis accueillir toutes les espérances. « Oh, mes chers rêves, qui faites passer devant moi tant de visions ravissantes! Elles prennent 1000 formes, mais le fond est toujours le même. Parfois, celui que j'attends est brillant, il est heureux et m'emmène avec lui dans le pays joyeux qui est le sien. Souvent, au contraire, il souffre, la vie l'a blessé, et c'est moi qui approche pour le consoler et réjouir ses jours jusqu'à la fin des tendresses de mon âme. »